Il est 18h15 dans le studio Kalangou. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans votre émission, le forum du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la trépanocytose, cause, conséquence et traitement. La trépanocytose est une maladie génétique héréditaire très répandue mais qui touche tout particulièrement l'Afrique mais aussi l'Inde et l'Amérique. Pour mieux cerner ce que c'est que la drépanocytose, ses causes, ses conséquences et le traitement, ainsi que l'ampleur de la maladie et les avancées enregistrées dans la lutte contre cette maladie, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Ali Bedari, il est médecin au Centre national de référence de la drépanocytose. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Madame Mahim Fatima, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et Mustapha Falalou, il est malade de la trépanocytose. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et merci d'être venu, Nefis Adam Sirfou, à la présentation. Chers invités, merci une fois de plus d'être venus. Je commence par vous, docteur Ali Bedari. Vous êtes un médecin au Centre national de référence de la drépanocytose, un centre qui prend en charge les malades. Présentez-nous d'abord ce centre.
Merci au studio Kalangou pour nous avoir invités ce soir pour discuter un peu sur la drépanocytose. Eh bien, le centre drépanocytaire, donc appelé communément Centre national de référence de la drépanocytose, est un centre qui a été créé suite à un partenariat entre l'État du Niger, l'ALDN et la MAD mondiale. Ce centre a pour mission vraiment la prise en charge adéquate de la drépanocytose en Afrique, au Niger particulièrement. Elle a aussi comme mission de former le personnel de la santé sur cette prise en charge-là et bien sûr de mettre en collaboration avec les autres associations le fait de sensibiliser un peu sur cette maladie. Et je vous remercie parce que nous sommes ici dans le troisième sujet du centre, oui. C'est-à-dire la sensibilisation. Mm-hmm. Et vraiment, nous pensons que les gens vont nous écouter et bénéficier un peu de tout ce que nous allons dire sur cette maladie-là.
On l'espère. Merci. Bien. Alors, comme je le disais plus haut, nous allons parler ce soir de la drépanocytose, une maladie qui touche bon nombre de personnes. Et donc, docteur, en tant que spécialiste de la question, quelle définition scientifique peut-on donner à cette maladie?
La définition scientifique de la drépanocytose, c'est que c'est une maladie génétique, héréditaire, à transmission autosomique récessive. Mais sachez que c'est effectivement des gros mots,
oui,
mais nous allons essayer de le détailler pour que tout le monde comprenne un peu ce que cela veut dire. Eh bien, drépanocytose est une maladie génétique. Cela veut dire que nous héritons cette maladie des parents. Elle est autosomique, donc ça veut dire que c'est une maladie qui n'est pas du tout liée au sexe, c'est-à-dire que c'est une maladie qui peut attraper aussi bien les garçons que les filles. Elle est récessive, c'est-à-dire que quand c'est un seul gène que la personne a, ce gène ne va pas s'exprimer. Donc, c'est ça qu'on va vous appeler pour vous dire que la personne est AS. Donc, toutes les personnes qui vont être AS seront porteurs de cette maladie, mais ne vont pas faire les manifestations cliniques de la maladie. Et donc, elle n'est pas liée au sexe, elle est autosomique, récessive. C'est ça, donc, c'est le principal thème que nous allons voir. Donc, ça veut dire qu'elle est héréditaire, elle est liée. Nous l'héritons des parents.
Oui.
Elle est autosomique, elle n'est pas liée au sexe. Et elle est récessive, elle ne s'exprime que quand il y a deux gènes S chez la personne.
Oui.
Et ces deux gènes S-là, sachez que la personne hérite du S de la mère et de l'autre S du père. En ce moment, eh bien, la personne devient drépanocytaire SS.
SS, oui.
Voilà.
On entend parler de AS, comme vous venez de le dire, SS, mais quelle est donc la forme la plus dangereuse, si on peut le dire?
Eh bien, la drépanocytose, d'abord, il faut distinguer deux termes. Il y a le terme syndrome drépanocytaire majeur qui regroupe un peu tous les malades qui ont le gène S dans leur sang associé à une autre maladie. Et c'est pourquoi nous allons trouver dans le syndrome drépanocytaire majeur les personnes qui sont SS dont on en parle très souvent, les personnes SC qu'on parle aussi parce qu'eux aussi sont suivis au Niger, et les personnes S-bêta-thalassémie, puisque la bêta-thalassémie aussi, c'est une autre affection du sang, mais qui peut se combiner avec la drépanocytose. Et dans ce cas, on va se retrouver avec la forme S-bêta-thalassémie. Mmh. Mais la bêta-thalassémie, il y en a deux formes aussi. Il y a la bêta-plus et la bêta-moins. Donc, en principe, ce sont ces quatre types-là qu'on retrouve fréquemment au Niger.
Oui.
Cette maladie-là, elle est à expression personnelle. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont faire des crises fréquemment et pratiquement le même type de crise à chaque fois. Et sachez que la forme SS, effectivement, cette forme-là, est la forme la plus fréquente dans nos régions d'abord. Mm-hmm. Et la forme la plus fréquente, cette forme la plus fréquente est aussi déterminée comme un peu la forme la plus dangereuse parce que elle est le plus souvent associée à une anémie qui est très sévère et la fréquence des crises vaso-occlusives se retrouve pratiquement dans cette forme-là.
Okay.
Les autres formes, effectivement, la forme SC, ils ont beaucoup plus l'hémoglobine, donc l'anémie n'est pas très profonde.
Mm-hmm.
Les crises, ils en font, c'est vrai, mais pas comme dans la forme SC.
SF.
Mais sachez que les SC font très fréquemment, peut-être nous allons le voir un peu plus,
voilà.
De certaines complications comme la nécrose de la tête fémorale sont beaucoup plus fréquentes.
D'accord.
C'est les SS. Et c'est les SC, disons.
D'accord.
Merci.
Monsieur Moustapha Falalou, AS, SS, la drépanocytose se présente sous différentes formes et vous êtes drépanocytaire.
Bonjour. Merci, Studio Kalangu, de me donner cette opportunité de venir m'exprimer sur cette terrible maladie quoi, qui est la drépanocytose. Moi, je suis drépanocytaire de forme SS.
De forme SS. Et oui. Depuis quand avez-vous su que vous êtes drépanocytaire?
Bon, depuis mon premier anniversaire, avant mon premier anniversaire, que mes parents ont découvert que je suis drépanocytaire à travers le test de l'électrophorèse qui permet de dépister la maladie.
Comme le docteur l'a dit, cette maladie, on l'hérite des parents, ce qui veut dire que vos deux parents sont porteurs des traits, du trait drépanocytaire, c'est ça?
Oui, veut dire que les deux parents sont AS, mais eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient AS. Il a fallu, à ma naissance, quoi, pour qu'ils sachent, pour qu'ils connaissent leur statut, puisqu'on peut être AS, être, ça veut dire qu'on est porteur sain. On peut ne pas tomber malade.
Avez-vous d'autres frères et sœurs qui sont drépanocytaires également?
Oui, j'ai une sœur, une petite sœur qui est aussi SS. Quoi.
SS.
Oui.
Et donc, vous êtes tous deux SS, c'est difficile pour la famille.
En tout cas, ce n'est pas facile. Surtout qu'on n'a même pas de prise en charge, quoi, malheureusement, au Niger. Et puis une crise là coûte excessivement cher quoi, pour les parents. Quoi.
Ok, nous allons revenir vers vous, monsieur Moustapha, le temps de donner la parole à madame Hima. Madame Hima, vous êtes la présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose. Cette association, elle est créée en 1996, c'est ça?
C'est ça.
Et vous avez mené un plaidoyer auprès des institutions en ce temps pour créer le centre actuel de la drépanocytose. Pour revenir un peu en arrière, comment était ce processus?
Effectivement, le processus a été un peu trop long parce que nous avons mené vraiment un plaidoyer auprès de l'État du Niger et auprès des partenaires financiers. Auprès de l'État du Niger, effectivement, on a mené le plaidoyer pour avoir le terrain qui était face à la morgue où se trouve l'ancien centre où on est en train de construire l'actuelle salle de conférence Gandhi.
Oui.
Donc, effectivement, l'État du Niger nous l'a donné depuis 1998. Ensuite, une fois que nous avons eu le terrain, nous avons mené encore un autre plaidoyer auprès de partenaires. Premièrement, auprès du consulat de Monaco d'abord, qui a accepté de nous aider à raffiner et à remodeler le plan et le budget du centre et ensuite on a eu à le présenter auprès de l'ONG de la princesse Caroline de Monaco qui est aussi Caroline de Hanovre. C'est une ONG monégasque qui s'appelle Amad Mondial. Et donc cette ONG a accepté et a cherché un cofinancement auprès du gouvernement de la principauté de Monaco. Donc c'était un long processus effectivement.
Mais finalement ça a abouti puisque le centre a été créé.
Oui, finalement voilà. Ça a abouti puisque le centre a vu le jour en 2010 et il a fonctionné et puis vraiment il répondait aux aspirations de tous les malades. Oui. Parce que si nous avons demandé ce centre, parce que avant les malades étaient acceptés au niveau de la pédiatrie A et de la pédiatrie B de l'hôpital national de Niamey. Ce sont des centres déjà surchargés. Vous savez, ce sont des pédiatries, donc les enfants sont toujours très souvent malades. Et quand nous, les malades drépanocytaires, quand ils atterrissent dans ces deux centres, il n'y avait pas suffisamment de personnel disponible pour recevoir des urgences. Oui, oui. Et pourtant, ce sont les deux services qui accueillaient les malades drépanocytaires. Oui. Donc, quand on a constaté les difficultés d'accès à ces deux services, c'est pourquoi on a opté pour vraiment faire sortir les drépanocytaires au niveau de l'hôpital national de Niamey. Mmh. C'est pourquoi donc on a eu l'idée de construire ce centre et effectivement, il a soulagé beaucoup de malades.
Il a soulagé beaucoup de malades. Donc, quelle appréciation faites-vous de la prestation de soins de ce centre actuellement?
Enfin, actuellement, oui, dans le temps, dans l'ancien centre, vraiment, on était satisfait. Oui, oui, parce que je vous ai dit, il répondait vraiment aux aspirations des malades. Le personnel était là disposé et donc à accueillir les malades. Tout est là aux soins des malades drépanocytaires. Mais actuellement, si vous dites actuellement, puisque le centre a été délogé, et donc avant le centre, il était plus vaste, on avait toutes les infrastructures qui répondaient aux aspirations des malades et du personnel soignant. Donc actuellement, comme le centre a été relogé dans un autre local, mais qui est plus exigu que l'ancien, donc c'est sûr que les prestations ne sont pas les mêmes. Mais sinon, ce n'est pas la qualité des prestations qui portent préjudice, c'est surtout l'exiguïté des locaux. Voilà. Donc sinon, le personnel, il est le même. Et donc vraiment, le personnel, il est qualifié et puis il connaît tous les malades. Tout le personnel est vraiment à la disposition des malades.
Merci. Voilà. Docteur Bédari, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question d'exiguïté de ce centre qui a été délogé?
Bon, concernant l'exiguïté du centre, sachez que malheureusement, on ne s'y est pas pris à temps pour trouver un terrain sur lequel on va reloger le CNRD. Mais ceci étant dit, nous ne pouvons pas aller un peu plus profond de cette question parce que c'est une question, je dirais, que nous allons laisser à nos gouvernants. Oui. Parce qu'ils savent un peu plus que nous pourquoi on nous a amenés là-bas.
Docteur, comment nous se présente donc la situation de cette maladie au Niger?
Sachez qu'au Niger, depuis la création du centre jusqu'au moment où on l'a délogé, c'est-à-dire en septembre 2018, nous avons en l'espace de 8 ans, pratiquement 7000 malades, parce que en termes de dossiers, nous avons jusqu'à 6500 dossiers de patients suivis. Donc, voyez-vous que ce n'est pas une mince affaire de traiter 6500 patients en moins de 8 ans. Et ces patients-là ont toujours, et je vous l'ai dit, et je confirme qu'ils ont des rendez-vous trimestriels. Donc, vous voyez que c'est quand même, comme vient de le dire Mme Hima, un centre qui est en train de prendre son envol, qui était vraiment sur une lancée la plus puissante pratiquement de l'Afrique, parce que nous avons un autre centre au niveau du Mali, mais la première année, quand nous étions déjà à 1000, eux, ils étaient pratiquement à 500. Donc, il faut vous dire qu'au Niger, cette prise en charge-là, elle se fait vraiment de manière la plus importante possible. Peut-être qu'on va laisser le mot aux drépanocytaires elles-mêmes pour apprécier la qualité, parce que en appréciant nous-mêmes, on va dire qu'on est en train de se glorifier. Ouais, ouais. Et donc, c'est important qu'on le sache. Toute la technologie qui doit être mise en place, malheureusement, n'est pas encore là. Mais la connaissance sur cette maladie est vraiment de pointe. Tout ce qu'on peut faire ailleurs, si nous avons les moyens de les mettre en place ici, nous allons les faire. Donc, nous sommes en train de travailler avec les moyens de bord, mais sachez que, bien que ça soit avec les moyens de bord, comme on dit, nous arrivons à avoir des résultats vraiment probants par rapport à cette prise en charge de la maladie.
Et quel est le taux de prévalence de cette maladie au Niger?
Très bien. Pour le taux de prévalence de la maladie, puisque pour voir un peu celui du Niger, voyons un peu au niveau mondial, on dit que ça c'est selon l'OMS, 300 000 enfants naissent chaque jour avec la drépanocytose et on dit qu'il s'agit de 200 000 enfants en Afrique. Voyez-vous que c'est vraiment très important. Oui. Et sur ces 200 000, il y a 50%, donc pratiquement les 100 000 enfants qui ne vont pas avoir l'âge de 5 ans s'ils ne sont pas suivis.
Oui,
donc
oui.
Vous voyez que c'est vraiment une hécatombe à ce niveau-là. Et donc c'est pour éviter cette hécatombe-là que les gens, les drépanocytaires eux-mêmes et leurs parents ont lutté pour la création de ce centre. Une fois que le centre est créé, la personne est bien suivie, eh bien son espérance de vie est pratiquement semblable à ceux qui ne sont pas drépanocytaires.
D'accord, docteur. Moustapha Falalou, vous êtes drépanocytaire forme SS. Dites-nous, comment vous vivez avec cette maladie? Vous souffrez énormément?
La drépanocytose est une maladie terrible. Qui, lors des crises, on sent des douleurs intenses.
Oui, effectivement, comment elle se manifeste, la crise? Quand vous avez une crise, comment elle se manifeste? Quelle douleur que vous ressentez?
On sent des douleurs un peu partout dans le corps. Au niveau des articulations, ça peut être au niveau du ventre, un peu partout. Et puis, c'est des douleurs qui sont terribles.
Et il y a un facteur qui déclenche cette crise ou bien...
C'est généralement en cas d'infection ou bien même le paludisme. Il peut déclencher la crise. Ou bien quand je fais des activités intenses, sportives intenses, bien en cas de déshydratation.
Oui, oui.
Quand je n'arrive pas à boire suffisamment d'eau, ça peut déclencher la crise. Et le froid également aussi.
Oui, le froid, effectivement. Vous sentez des douleurs au niveau des articulations, tout ça?
Oui, au niveau des articulations, des fois même au niveau du ventre ou bien au niveau de la poitrine aussi.
Les crises, c'est combien de fois par jour? Vous faites des crises.
Vous savez, la maladie là, dépend d'une personne à une autre.
Oui.
Moi, par exemple, quand j'étais enfant, je souffrais beaucoup. Par mois, je peux tomber 2 à 3 fois malade.
Oui.
Mais avec le temps, en grandissant, la fréquence des crises là, ont diminué.
C'est dû à un traitement?
Bon, c'est dû à la prévention. On a eu la chance d'avoir un personnel qualifié qui s'occupe de nous au niveau du Centre national de la référence de la drépanocytose. Qui met l'accent beaucoup sur la prévention. On nous sensibilise beaucoup sur la maladie pour connaître tous les facteurs déclenchant la crise et de les éviter.
Et dans votre enfance, vous disiez que vous avez beaucoup souffert. Il vous est une fois arrivé d'être hospitalisé?
J'ai même l'habitude d'être transfusé.
Transfusé?
Oui, ça veut dire qu'on m'a augmenté du sang parce que c'est un problème d'anémie.
Voilà, d'anémie.
En tout cas, nos parents ont beaucoup souffert de cette maladie, tout comme nous aussi. Il n'y a pas de gratuité au niveau du traitement de la. Et les produits aussi coûtent excessivement cher.
D'accord. Nous allons revenir sur cette question. Docteur?
En fait, la prévalence au Niger, sachez qu'il n'y a pas d'enquête nationale d'abord. Il n'y a pas eu d'enquête nationale. Le premier chiffre que nous utilisons toujours date de 1987. C'est une thèse en médecine qui a trouvé que la prévalence de la drépanocytose chez les femmes enceintes qui vont dans les PMI, parce qu'en ce moment on les appelait les PMI, était de 18 à 22%. Et c'est ce chiffre-là qui est quand même resté depuis 87 jusqu'à ce jour. Mais sachez que d'autres études ont eu lieu, notamment en 2009, où l'OAS, c'est-à-dire l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, en collaboration avec le CNRD, a mené une enquête au niveau des écoles primaires. Et à ce niveau-là, nous avons retrouvé plutôt 25% de porteurs sains et pratiquement 5% de syndrome drépanocytaire majeur, c'est-à-dire les formes les plus graves, les SS, les SC. Ça, c'est au niveau donc des enfants de l'école primaire.
Voilà.
En 2015-2016 aussi, le centre, avec, en collaboration avec la DCI Monaco, donc la Direction de la coopération internationale, a mené une autre enquête. C'est les enfants de 0 à 5 ans, donc ceux-là qui sont au préscolaire, parce qu'on s'est dit que, comme nous avons eu à le dire un peu plus haut, 50% n'était pas possible d'avoir leurs 5 ans. Donc, nous sommes partis un peu plus bas pour voir la prévalence à ce niveau. Et là, nous, quand nous avons fait les études, nous nous sommes retrouvés à pratiquement 26% de syndrome drépanocytaire et aussi 5,2% de syndrome drépanocytaire majeur. Donc, vous voyez que ce taux est toujours en augmentation par rapport aux années 87.
D'accord.
Donc, c'est vous dire que c'est très important de le savoir, que cette maladie, malgré tout ce que nous sommes en train de dire, elle ne fait que progresser
évoluer
dans la population.
Voilà. Voilà. Docteur, les crises, comme l'a dit Monsieur Mustapha, on sait que les crises douloureuses sont l'un des signes cliniques majeurs de la drépanocytose. Quels peuvent être donc les facteurs déclenchants?
Sachez que les crises vaso-occlusives, comme on dit, sont effectivement les premiers signes. Et ces premiers signes commencent très souvent à partir de 6 mois après la naissance. Donc, 6 mois après la naissance, ces signes-là commencent. Mmh. Ces signes-là, les premiers signes qui vont commencer, ce sont ce que nous appelons syndrome main-pied. Mmh. C'est-à-dire, il y a un enflement au niveau du dos des mains et des pieds et ça fait mal. L'enfant va crier. À ce moment-là, quand il va crier, c'est normal parce qu'il n'a pas appris à parler. Donc, sa souffrance, il va pleurer pour dire qu'il a mal. Et en ce moment-là, la plupart du temps, on pense que ce sont les grands frères ou les autres qui ont poussé l'enfant
alors
qui est tombé
que...
parce qu'on a vu que la main, le dos de main est boursouflé et édémacié. Mais sachez que très souvent, la crise commence par là. Mais quels sont les facteurs déclenchants? C'est vrai, je suis assez content que monsieur Mustapha vous a dit un peu ce qu'on leur dit tous les jours. Donc, les facteurs déclenchants, c'est tous les facteurs qui peuvent entraîner la baisse d'oxygène dans, au niveau donc, du sang. Et cette baisse d'oxygène peut se faire quand il y a la fièvre, bien sûr, quand il y a la déshydratation, quand il n'y a pas assez d'oxygène. Donc, quand on est rentré, quand il rentre dans une foule où l'air est compact ou dans une salle où ce n'est pas bien aéré, eh bien, ils vont faire cette crise-là. Et sachez que c'est pourquoi on leur dit et on les répète, il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau, que quand ils ont une fièvre, de le traiter rapidement pour ne pas aller vers la crise en elle-même.
Et en cas de crise, comment, que faire pour calmer les crises?
Ok, pour ceux qui sont suivis, il y a déjà une ordonnance systématique qui leur est délivrée, sur laquelle il y a un traitement de la fièvre et traitement de la douleur. Et bien sûr, un traitement préventif de la crise en donnant donc des vitamines. Donc ces médicaments-là, ils doivent l'avoir tout le temps. Les médicaments qu'on donne systématiquement, à savoir l'acide folique qui permet à ce que l'organisme fabrique le sang et la vitamine E qui, elle, est un antioxydant de la membrane du globule rouge. Et c'est-à-dire que cette vitamine-là empêche la falciformation de l'hématie.
Yeah.
Donc voilà les raisons pour lesquelles ces deux médicaments sont pris d'une manière quotidienne.
Okay.
Maintenant, pour ceux qui ont des douleurs, nous avons donc des antidouleurs et ça, c'est en forme de classe. Parce que la première classe de l'OMS, c'est le paracétamol. Maintenant, quand ça dépasse le paracétamol, la deuxième type, c'est du paracétamol plus un démophénique. Et au stade 3, on peut aller jusqu'à la morphine.
Okay,
donc, vous voyez que
si.
Le traitement de cette maladie dépend un peu de l'intensité de la douleur que la personne est en train d'avoir.
Merci.
Et de l'appréciation de cette douleur par les médecins. Bon, les conséquences de cette maladie, nous savons que les complications les plus fréquentes, ce sont les AVC, c'est-à-dire quand un enfant peut avoir une attaque au niveau cérébral et ça peut lui entraîner une hémiplégie, donc c'est-à-dire que tout un ménémicorps qui ne peut pas bouger. Nous pouvons avoir des nécroses de la tête fémorale, c'est-à-dire des enfants qui vont boitiller. Nous pouvons avoir une ostéomyélite, c'est-à-dire une infection de l'os qui va sortir et c'est du pus tout le temps, tout le temps. Nous pouvons avoir des ulcères de jambes, c'est-à-dire des plaies qui peuvent durer. Et nous avons eu un patient qui a fait jusqu'à 25 ans avec une plaie au niveau de la jambe. Sachez que ceux-ci-là sont vraiment terribles. Merci. Nous pouvons avoir beaucoup d'autres.
Okay. Merci à vous. Madame Hima, votre association, quelles sont les actions que vous menez en faveur d'une meilleure prise en charge des malades de la drépanocytose? Comme on l'a vu, on l'a entendu, ils sont nombreux, les drépanocytaires ici au Niger.
Oui, donc les activités qu'on mène en faveur des drépanocytaires, c'est surtout les actions de sensibilisation. Par exemple, quand on était à l'ex-CNRD au niveau du centre, chaque matin, en collaboration avec les agents du centre, les agents du centre avec les membres de l'association, on s'associe pour mener des séances de sensibilisation chaque matin à l'endroit des malades. Mmh. Chaque matin, on a 15 à 20 minutes de séances de sensibilisation.
Oui.
Donc, chaque malade qui vient, il y a des malades qui ont suivi peut-être ces séances de sensibilisation plusieurs fois. Il y a aussi d'autres malades qui sont des nouveaux venus. Donc, il faut qu'ils bénéficient. Donc, on les explique qu'est-ce que c'est que la maladie, effectivement, comment éviter les facteurs déclenchants de la maladie et en cas de fièvre, quelles sont les précautions à prendre à la maison avant d'amener l'enfant au centre, ainsi de suite. Donc, et puis, on leur explique aussi la transmission de la maladie, les malades eux-mêmes. Il faut qu'ils sachent qu'un enfant qui est drépanocytaire SS, c'est parce qu'il a hérité des deux parents. Donc, il faut comprendre tout ça là. Donc, en dehors des séances que nous menons au niveau du CNRD chaque matin, le CNRD, en collaboration avec l'association, nous déplaçons pour aller dans les régions, jusque dans les départements, pour aller rencontrer les malades et puis faire des séances de sensibilisation aussi. Nous avons eu à faire des séances de sensibilisation dans les écoles, surtout les collèges, les lycées, et même dans les centres de jeunes des quartiers. Très souvent, nous ciblons d'abord le groupe cible à qui il faut mener ces séances de sensibilisation et le message qu'il faut apporter à ces jeunes-là. Et nous faisons aussi du counseling, c'est-à-dire il y a aussi des jeunes qui peuvent nous trouver au niveau du CNRD en collaboration avec le service social. Nous leur expliquons. Premièrement, il faut qu'ils fassent d'abord le test prénuptial s'ils s'engagent pour aller se marier. Et une fois que les tests sont négatifs, c'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Mais si les tests sont positifs, on leur explique ce qui les attend dans la vie future, mais on ne les décourage pas. C'est à eux de prendre leur décision. La décision leur appartient, mais nous leur expliquons les tenants et les aboutissants. Quand ils vont s'engager, il ne faut pas qu'ils soient surpris par les difficultés qu'ils vont rencontrer par la suite. Et il y a eu certains jeunes même qui se sont mariés, qui se sont retrouvés avec un enfant SS sous les bras, sans savoir qu'eux-mêmes, ils sont porteurs de la maladie. Et effectivement, la jeune fille, elle était même en études de pharmacie. Comme l'enfant est très souvent malade, elle a décidé de divorcer systématiquement. Donc, nous avons eu à les rencontrer et à discuter avec eux pour les conscientiser. Nous avons eu beaucoup de cas où les gens, quand ils se sont rencontrés et rendus compte qu'ils ont des enfants malades, ils décident de divorcer.
Voilà. Moustapha Falalou, quel est le traitement que vous suivez actuellement?
Je prends régulièrement 2 comprimés d'acide folique par jour pendant 20 jours. Et j'observe une pause de 10 jours. Ensuite, je bois suffisamment d'eau quoi, pour éviter la déshydratation qui peut déclencher la crise. Maintenant, en cas de fièvre, je prends du paracétamol. Bien, s'il y a des douleurs, malgré la prise du paracétamol, si elle ne se calme pas, je suis obligé de me rendre au Centre national de référence de la drépanocytose.
Et donc, le traitement, il vous coûte cher?
En tout cas, le traitement, ça coûte excessivement cher. Par crise, je peux, en tout cas par jour, si en hospital, je peux dépenser plus de 15 000 ou 20 000 francs quoi, par jour. Et ça peut être en 72 heures. Quoi. C'est ce que ça peut.
Mais est-ce que la création de ce centre a eu un impact sur votre vie ou bien la prise en charge même de cette maladie? Est-ce que ça a eu un impact?
Bon, l'impact que ce centre a eu, c'est qu'il m'a donné la chance de connaître bien ma maladie pour mieux vivre avec elle. Parce que jusqu'à preuve de contraire, ici en Afrique, on dit qu'elle est incurable. C'est une maladie incurable. D'où la nécessité de connaître tout ce qui peut déclencher les crises et de les éviter.
Alors, Mustapha Pta, est-ce que vous êtes marié?
Oui, je suis marié.
Avant de vous engager, est-ce que vous avez eu à faire le test avec votre conjoint?
Je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas eu le temps ou bien la chance de faire ce dépistage-là avant le mariage.
C'était un choix. Elle ne connaissait pas votre statut. Elle-même, elle est porteuse.
Non, je l'ai dit quand même que moi, je suis drépanocytaire. Est-ce qu'elle est prête à accepter de partager sa vie avec un drépanocytaire? Elle a accepté sans problème.
Et elle n'est pas drépanocytaire?
Malheureusement, elle est AS, elle aussi. Okay. Maintenant, on a actuellement 2 enfants.
Et quel est leur statut, ces enfants?
La première, c'est une fille, elle est SS. Oh là là. Mais le second, lui, il est... AS.
C'est encore plus difficile, vraiment.
En tout cas, c'est pas facile de me prendre en charge moi-même et de prendre les enfants en charge.
Oui, docteur.
Je voulais réagir un peu sur la situation de mon cher collègue, Monsieur Mustapha, puisque vous savez, au niveau du centre, la principale activité que nous faisons, c'est la sensibilisation dont je vous ai parlé tout de suite là. Et il y a le terme bien consacré, mieux vaut prévenir que guérir. Eh bien, mieux vaut prévenir que guérir, c'est vraiment au niveau de cette maladie, la drépanocytose là, qu'elle doit s'appliquer, et ça à tous les jours. Nous avons toujours dit, et nous le répétons chaque matin, que un drépanocytaire, quand il y a un drépanocytaire dans la famille, premièrement, tous les autres membres de la famille doivent faire leur test pour savoir qui est porteur sain, qui est drépanocytaire. Ceux qui sont drépanocytaires, on les récupère au niveau du centre et on commence leur traitement. Ceux qui n'ont pas du tout le trait drépanocytaire, eh bien ces gens-là, on leur dit, vous êtes libre, vous pouvez vous marier avec n'importe qui. Vous voyez que c'est très important à ce que nous fassions le test prénuptial. Et prénuptial, quand on dit ça, là, ce n'est pas... à une semaine du mariage qu'il va falloir le faire, parce qu'en ce moment-là, on ne peut pas... C'est rare, Madame Hima vous a dit, à ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué de rompre ce mariage. Ce qui est important, et nous le faisons toujours, et nous avons commencé avec la LDN, à aller dans les collèges, dans les lycées, pour informer les jeunes et les pousser à connaître leur statut. Vous avez vu, Monsieur Mustapha vous a dit que leurs parents, c'est normal à leur temps, c'est quand un enfant naît dans la famille, quand il devient SS, qu'on sait que les deux parents sont porteurs de la maladie. Maintenant, nous avons la chance d'avoir les appareils pour faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, pour faire le dépistage de cette maladie pratiquement dans toutes les régions du Niger. Alors, je pense que vraiment, quand on a mis ces appareils-là en place, c'est pour travailler. Et donc, on l'a mis au nom de la population nigérienne. Ce que Mustapha n'a pas dit, et c'est très important de le souligner ici, c'est que quand il y a une hospitalisation, l'hospitalisation peut durer 4, 5, voire 10 jours. Pendant ces 10 jours-là, le montant que le parent va débourser varie, et nous avons fait des études sur ça, varie entre 50 à 200 000 francs. Sachez que 200 000 francs pour une hospitalisation de 10 jours, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et je vous assure, on peut relâcher la personne 2 ou 3 jours.
Elle peut revenir.
Une semaine après, il peut revenir. Mm-hmm. C'est-à-dire, et M. Mustapha l'a bien précisé, il peut faire à son jeune âge 3 crises par mois. Oui. Si on prend 200 000 fois 3, ça fait 600 000 par mois. Je ne pense pas qu'au Niger, il y ait assez de familles qui peut prendre un seul enfant à 600 000 par mois. Donc, sachez que ce que nous disons ici, là, c'est très important. Il faut que les gens nous écoutent. Il faut que les gens comprennent la difficulté de cette prise en charge de cette maladie-là et qu'il suffit de simple prévalence. Il suffit de chercher de simple électrophorèse de l'hémoglobine qui ne dépasse pas 8 000 francs pour savoir son statut et éviter d'avoir des enfants qui vont nous coûter jusqu'à 600 000 par mois.
Docteur, d'aucuns disent que les malades de la drépanocytose n'iraient pas très loin en espérance de vie. Est-ce une réalité?
Ça, c'est l'ancienne école, comme on dit. Effectivement, au tout début, parce qu'il n'y avait pas de suivi, parce que la science n'a pas très évolué dans nos pays. En ce moment-là, on disait que le droit pasteur ne dépasse pas 18 ans. Mais sachez que cette assertion-là est battue en brèche depuis fort longtemps. Mm-hmm. Nous savons actuellement, M. Moustapha qui est avec nous va vous préciser, il a déjà plus de 40 ans. Mm-hmm. C'est vous dire que non, l'assertion selon laquelle le droit pasteur ne va pas vivre longtemps est vraiment tombée à l'eau depuis fort longtemps.
Merci.
Sachez qu'il suffit juste que la personne fasse un bon suivi pour vraiment vivre comme les autres, et il vient de le préciser. C'est un homme aujourd'hui marié avec deux enfants. Je pense que la même manière dont il se suit, il fait suivre sa première fille aussi. Mm-hmm. Et nous espérons qu'elle aussi puisse grandir et se marier.
Merci bien. Madame Fatima, quelles sont les avancées, si on peut le dire, enregistrées depuis la création de ce centre à aujourd'hui?
Donc, les avancées qu'on a pu enregistrer, effectivement, c'est qu'on a pu quand même avoir une cohorte. Le CNRD maîtrise quand même un certain nombre de malades parce qu'on a une base de données au niveau du CNRD. On a aussi on a un laboratoire qui est performant au niveau du CNRD. On a une pharmacie qui fonctionne au niveau du CNRD. Donc, les malades sont vraiment satisfaits puisqu'ils ont tout à leur portée au niveau du CNRD. Donc, les avancées, c'est aussi le fait que les malades, ils fréquentent. Dès qu'ils fréquentent le centre, dès qu'ils sont en crise, ils savent à quel moment il faut essayer de juguler la fièvre. Mm. C'est le premier jour. Et donc, si ça persiste, automatiquement, ils vont se rendre au niveau du centre. D'accord. Là, c'est encore une autre avancée. Mm. Parce que dans le temps, les gens, ils restent à la maison pour essayer. Quand ils voient les yeux des enfants qui sont jaunes, donc c'est la crise qui commence. On pense toujours à une jaunisse. Mm. Donc, on essaye d'alimenter le malade avec des décoctions, ce qui aggrave encore la situation. Donc maintenant, les parents sont bien informés. Dès qu'ils voient que la fièvre persiste, dès que la douleur persiste, automatiquement, ils se rendent au niveau du centre. Mm. Et là, le malade, il est pris en charge rapidement. Et donc, en 3 ou 4 jours, au maximum en 5 jours, le malade se retrouve sur ses pieds. Mm. Donc là, c'est encore une autre avancée.
Merci bien. Moustapha Falalou. Vous êtes, vous et vos enfants, vous suivez un traitement au niveau de ce centre, c'est ça? Et actuellement, vos enfants, est-ce qu'ils souffrent énormément? Parce que vous dites que l'une d'entre elles est SS, c'est ça?
Oui.
Ok. Elle souffre, elle également?
Bon, ce qui nous a même amené à lui faire le test de diagnostic, c'est une seule fois qu'elle était tombée malade. Et Dieu merci, elle ne tombe pas fréquemment malade. Mm. Et son frère, lui, comme il est AS, c'est un porteur sain, quoi. Lui, il ne tombe pas malade.
Et donc, comme nous sommes presque à la fin de cette émission, quel conseil vous avez à l'endroit des malades de la drépanocytose ou bien des autres personnes afin de mieux vivre?
Bon, les conseils que je donne aux drépanocytoses, c'est d'éviter de commettre
votre erreur.
Mon erreur.
Si on peut le dire, oui.
Parce que c'est pas une fatalité. Mm-hmm. On peut connaître son statut et savoir avec qui on doit partager la vie, quoi. Et l'autre conseil, c'est aux gens qui sont déjà atteints de la maladie, de vraiment connaître, de se rendre régulièrement au centre, quoi, mm-hmm. pour être suivi, quoi. Mm-hmm. Ça va leur permettre de bien connaître leur maladie et de pouvoir vivre longtemps avec la maladie.
D'accord, merci à vous. Docteur, avant de clôturer, pouvez-vous nous expliquer un peu pour un malade qui vient sa première fois au centre, comment ça se fait?
Pour un malade qui vient pour la première fois au centre, c'est assez facile. Nous avons une table d'accueil du malade. Une fois qu'il arrive là-bas, il explique un tout petit peu ce qu'il a amené. En principe, quand c'est une crise qui a amené la personne, dans les 5 à 6 minutes qui suit, il voit un médecin. Et là, c'est au médecin de voir, d'apprécier l'état de la maladie. Il peut directement demander des examens pour la prise en charge directe et même une hospitalisation. Au cas contraire, il va toujours demander l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de savoir si la personne, le malade qui vient d'arriver là, est drépanocytaire ou pas. Maintenant, une fois qu'on a découvert que cette personne-là est drépanocytaire, eh bien, la sensibilisation commence à ce niveau. Si c'est un enfant, on appelle les deux parents, principalement le père et la mère. Bien sûr, malheureusement, au Niger, c'est toujours les mères que nous voyons. Donc, nous expliquons un peu plus aux mères, un tout petit peu, c'est quoi cette maladie-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire et qu'est-ce qu'il va falloir éviter, comme nous venons de le dire un peu plus haut. Les principaux signes de la maladie, on leur apprend. La conséquence du non-suivi, surtout de la maladie, on leur apprend tout ça. Et vous voyez qu'après deux ou trois visites au niveau du centre, les patients et leurs parents sont édifiés sur la maladie. Et dans la plupart du temps, vraiment, ils adhèrent à ce que nous leur disons. Et la plupart du temps, une fois qu'on a découvert que la personne est drépanocytaire et qu'on lui donne des rendez-vous, je vous assure que les 99% respectent les rendez-vous. Et si ce n'était été qu'on nous a délogés pour nous amener de l'autre côté, où malheureusement maintenant, il y a un petit tassement au niveau des suivis, eh bien, quand vous arrivez au centre, en ce moment-là, vous avez pas moins de 100 personnes qui arrivent pour le suivi, parce que nous avons pratiquement 6 médecins. Et chaque médecin peut voir jusqu'à 15, voire 20 malades dans le suivi.
Alors, docteur, à votre mot de fin, comme nous sommes à la fin de cette émission.
Merci. Mon mot de la fin, c'est encore et encore sensibilisation. Vraiment, les personnes qui ne connaissent pas leur statut, la sensibilisation à leur niveau, c'est de venir au centre, de se faire dépister pour que chacun connaisse un peu son statut. Maintenant, pour les malades, le conseil, c'est suivre les conseils que leur donnent les médecins, qu'ils fassent régulièrement leur suivi. Maintenant, au niveau de la population nigérienne elle-même, sachez que la drépanocytose, nous avons dit que ça concerne pratiquement 25% de la population. Actuellement, nous avons dit qu'on a jusqu'à 6500 et qu'il va falloir faire un effort, parce que vous avez vu, Madame Himala dit un peu plus haut, c'est la mode mondiale où la DCI, la coopération internationale de Monaco, s'il vous plaît, en Europe, qui sont venus construire un centre pour des Nigériens. C'est-à-dire une association et un pays qui est venu pour aider les Nigériens.
D'accord.
Et nous savons, nous savons qu'au Niger, il y a assez de personnes qui sont aisées et nous faisons appel à eux pour qu'ils viennent aider leurs frères et sœurs drépanocytaires en construisant le centre actuellement ou en nous octroyant des machines et autres pour le laboratoire.
D'accord.
Voilà ce que je vais dire très rapidement. Voilà.
Madame Hiba, pour finir, quels sont vos conseils ou recommandations pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose au Niger?
Donc, nos conseils, c'est toujours les mêmes conseils que nous donnons au cours de nos séances de sensibilisation. C'est toujours donc d'éviter la déshydratation, d'éviter les fortes chaleurs, d'éviter le froid excessif, d'éviter aussi, donc je l'ai dit, des efforts intenses.
D'accord.
Voilà.
Merci à vous. Et comme vous l'avez entendu, chers auditeurs et auditrices, la drépanocytose est une maladie très fréquente et qui continue de se répandre malgré les séances de sensibilisation. Il est donc important pour tout un chacun de se faire dépister. Alors, c'est ici que prend fin cette émission. Nous étions avec Dr Ali Bedari, il est médecin au Centre national de référence de la drépanocytose. Madame Hima Fatima, elle est présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose et Mustapha Falalou, malade de la drépanocytose. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo. À la technique, Issa Laoli. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro du forum du studio Kalangu. Au revoir.